On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, merci pour ton esprit qui nous habite. Merci, Seigneur Jésus, d'être au milieu de nous, au milieu de ton assemblée, présent avec nous, Seigneur, dans toute ta gloire, dans toute ta puissance, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette présence, Seigneur, c'est l'œuvre de ton esprit, l'esprit de Christ qui habite en nous et au milieu de ton Église, Seigneur. Merci, Père, pour cette journée spéciale, la fête des mères. Je te prie, Seigneur, de nous aider à honorer cette journée, à honorer nos mamans, Seigneur, à prendre le temps de nous arrêter pour écrire un mot, pour placer un appel, pour prendre un repas, Seigneur. Je te prie, Père, pour les mères qui ont le cœur gros, le cœur lourd, de ne pas voir leur enfant marcher avec toi encore, Seigneur. Je te demande de venir les remplir de foi et de paix en toi. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ne sont pas proches de leur mère et qui ont probablement des choses, des fois, à pardonner, à aller se réconcilier, Seigneur. Viens les conduire aujourd'hui et que nous puissions avoir un ministère de réconciliation, Seigneur, comme tu en as eu envers nous. Père, je te prie de nous accompagner dans ces réflexions sur l'Esprit-Saint, de nous instruire, de nous faire grandir, Seigneur. Nous voulons être sensibles, nous voulons être remplis, nous voulons être conduits par l'Esprit, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, je répète pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, cours sur l'Esprit-Saint, les disciplines spirituelles avec Alexandre Marquis, les nouveaux croyants avec Robert, la prière pour les hommes derrière moi, la prière pour les dames reste dans le même local, et ça va être ainsi pour 7 semaines. Le cours ici va être enregistré, donc pour ceux qui n'étaient pas avec moi à la dernière session, je vais prendre des questions, je vais prendre des interventions, je vais généralement les répéter pour que ceux qui vont suivre le cours, je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui tenaient à être dans le cours avec Alexandre et qui m'ont demandé si le cours allait être enregistré, alors ça va être important que je répète les interventions, que ça puisse être enregistré. Ce que ça veut dire, la seule chose que je vous demande, c'est si vous posez des questions, essayez de nous donner une question qui rentre en dedans de 15-20 secondes. Autrement, on va perdre le fil, puis à la longue, ce que je fais, c'est que j'arrête de les répéter. Et donc, les gens ont juste un bon moment de silence, ils ne comprennent pas ce qui se passe. D'accord? Donc, des questions assez brèves, et puis je vais pouvoir essayer d'y répondre. Le cours qu'on fait pendant 7 semaines, ce n'est pas la doctrine de l'Esprit-Saint. D'accord? Je veux juste clarifier ça en commençant. C'est l'Esprit-Saint et vous, question pratique. Maintenant, on va faire de la théologie biblique, on va aller dans des passages, on va adresser des questions qui sont soulevées par des passages bibliques, mais on ne va pas faire une doctrine de l'Esprit-Saint. Alors, on ne va pas étudier qui il est, d'où il vient, quels sont ses attributs. On n'étudie pas la personne de l'Esprit-Saint. On va vers des textes qui soulèvent des questions pratiques dans notre relation à l'Esprit-Saint. D'accord? Des textes qui troublent souvent des gens. Puis en fait, les 7 questions, je les ai entendues à plusieurs reprises. Des gens sont venus me poser des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce que le passage disait. Donc, on va aborder les questions. En fait, 6 questions, je m'excuse. Le blasphème contre l'Esprit-Saint. C'est ce matin. Pouvons-nous résister à l'Esprit-Saint? Devrions-nous prier l'Esprit-Saint? Éteindre le Saint-Esprit, est-ce possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il quelque chose de plus triste que d'attrister l'Esprit-Saint? Il y a un passage qui nous dit qu'on peut attrister l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on y parvient? Comment est-ce qu'on sait qu'on est rempli de l'Esprit? Est-ce que les Écritures, répondent à ces questions-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question pratique? Pas sur la personne, mais sur notre relation avec l'Esprit que vous auriez aimé qu'on traite dans le cours. Oui, Louise. Les dons du Saint-Esprit. Oh boy, ça, c'est une question. OK, mais c'est possible que j'ai une semaine de plus, parce qu'en fait, j'ai 6 questions cette semaine, mais en général, je m'étire. Alors, c'est pas exclu, je vais le prendre en note. Et est-ce que tu peux préciser ta question par rapport au don de l'esprit? Tu aurais voulu qu'on voit tout le sujet? C'est quoi? T'as-tu une question pratique? D'entrer dans les dons et les définir, c'est ça que tu veux dire? OK. Ah ouais, non, c'est sûr qu'on ne couvrira pas ça. Bien, ça va être un désir qui va rester un désir. Inassouvi. Je suis désolé, Louise. Quelqu'un d'autre qui avait une question pratique? Oui, Paul? Non? Tu t'es répondu à toi-même? OK. Merci. En y pensant, c'est bon. OK, vous avez des notes. Si vous n'avez pas pris les notes, il reste des copies en avant, à gauche et à droite. Et puis, comme d'habitude, elles vont être disponibles sur Internet en PDF aussi. Alors, on y va avec la première question. Qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit-Saint? D'accord? On commence avec deux questions négatives et difficiles. Des questions peut-être que vous vous êtes moins posées. Mais est-ce que quelqu'un ici a déjà eu à discuter avec une personne qui craignait, ou peut-être quelqu'un l'a même expérimenté lui-même, craignait d'avoir blasphémé contre l'Esprit-Saint avec la menace que Jésus fait peser sur ce péché-là? Est-ce que vous avez déjà eu à parler avec quelqu'un, à conseiller quelqu'un qui vous arrive, un chrétien, voilà, il ne sait plus s'il est chrétien, puis il vous arrive puis il dit, je pense que j'ai commis. Il est troublé dans son âme par ça, non? Personne? Moi, ça m'est arrivé à plus d'une reprise, des gens qui étaient troublés par cette question-là. Le passage principal, c'est dans Matthieu. En fait, les trois évangiles synoptiques en parlent. Mais le passage principal, c'est dans Matthieu. On va tourner ensemble, Matthieu 12. Verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse des démons que par Belzébul, prince des démons. » Ils sont en train de parler de Jésus, d'accord? Vous vous rappelez du passage probablement. « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors imaginez qu'une personne soupçonne, se questionne à savoir si elle a commis ce péché-là. Après avoir lu ce que Jésus dit par la suite. Vous imaginez que vous avez quelqu'un qui peut vivre des angoisses assez profondes et assez sévères. Il arrive que des prédicateurs, des enseignants peuvent être même indélicats dans ce qu'ils vont enseigner, dans ce qu'ils vont apporter sur un sujet comme ça. Parce qu'on peut troubler profondément une âme qui est attachée à Christ, je pense, avec si on enseigne de manière inconsidérée. Si vous allez à la page 3 de vos notes, je vous donne une citation qui est tiré de, je pense que c'est à la fin complètement des notes que vous allez avoir la source, là. Edwin H. Palmer, The Holy Spirit. Alors écoutez ceci, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Si un lecteur de ce passage commet un tel péché, il ne pourra jamais être sauvé. Il n'aura jamais de seconde chance. Il aura beau lire la Bible ou entendre l'Évangile prêché, l'entrée du ciel lui est éternellement fermée. Il est trop tard. Dieu ne le pardonnera jamais. Toute l'Église pourrait prier pour lui, mais cela ne lui servira de rien car il a commis un péché qui conduit à la mort. Et là, le théologien associe ça avec 1 Jean 5,16. En effet, l'Église ne devrait même pas prier pour une telle personne. D'accord? Ça, c'est citation. C'est pas de la théorie. Alors, si vous étiez dans une église et qu'on vous enseignait quelque chose comme ça, bien, vous voulez savoir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Hein? Vous voulez savoir si ça vaut la peine de vivre ou peut-être ça vaut la peine de profiter de la vie parce que de toute façon, l'éternité vous est fermée complètement. Est-ce qu'il y avait une question, Alain? Non? OK. Oui. C'est ça, on va le définir ensemble. On va le voir ensemble. Est-ce que tu as pris les notes, Kamal? OK, il y a des notes juste ici à l'avant. Il me reste des notes ici à l'avant, à droite aussi, pour ceux et celles qui n'auraient pas pris les notes. On va le voir ensemble, on va le définir. Mais vous voyez que c'est une question qui est délicate. C'est une question qui demande du doigté, de la sensibilité. Ça demande de bien étudier le passage parce que la menace de Jésus est très, très sévère. Puis, c'est quand même un texte qui est pas simple. Parce que si c'est croire en Jésus qui fait que tu es sauvé, puis blasphémer contre le Fils de l'homme, c'est pas nécessairement fatal, mais blasphémer contre l'Esprit, ça, ce serait fatal. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quelques théologiens, d'accord? Comment ça a été interprété à travers l'histoire de l'Église par différentes personnes? Avant ça, juste une définition de blasphème. Blasphème, la définition qu'on trouve qui est dans le dictionnaire, mais qui est tout à fait juste aussi dans les Écritures, on parle de la définition d'un mot. Parole, propos qui outrage la divinité, la religion. Vous avez ça à la page 3. Maintenant, dans le contexte des Écritures, on parle d'un blasphème contre l'Esprit. De quoi il s'agit? Augustin estimait que cette question était l'une des questions théologiques les plus difficiles de la Bible. Les trois évangiles synoptiques en parlent. Je vous ai donné les références ici. Et essentiellement, les trois évangiles sont en train de dire la même chose. Les passages mentionnent qu'un blasphème contre le Fils de l'homme pourra être pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Il s'agit donc d'un péché impardonnable, un péché important. D'autres passages ont été associés avec ce péché-là, d'accord? On pense à Hébreux 6, qui dit que celui qui a participé à l'Esprit, puis qui ensuite de ça a rejeté, celui-là ne peut pas parce que ce serait crucifié encore. Dans 1 Jean 5,16, on va juste aller voir 1 Jean 5,16 rapidement. Ces passages-là ont été associés par plusieurs théologiens avec le passage qu'on est en train de regarder ce matin. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste encore. Je suis juste en train de dire qu'ils ont été associés. 1 Jean 5,16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est quand même assez fort. Il y a des similitudes, il y a des rapprochements entre ce qu'on vient de lire dans 1 Jean 5,16 et le passage dans les Évangiles. Dans les deux cas, il semble y avoir quelque chose où il y a un non-retour. Il y a quelque chose que tu pourrais commettre qui serait... non-retour, tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est la même idée qui est apportée dans Hébreux aussi. Alors, une première question, lorsqu'on veut comprendre c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est est-ce que ces passages-là sont en train de parler de la même chose? Est-ce qu'on a le droit de prendre ces textes-là puis de les associer pour venir éclairer ce que Jésus est en train de dire dans les Évangiles? D'accord? Ça, c'est une question vraiment importante lorsqu'on va essayer d'étudier ce sujet-là, cette question-là. Alors, quelques théologiens. Certains théologiens pensent qu'il s'agit d'un péché qui ne peut plus être commis aujourd'hui. Et j'explique pourquoi, si vous allez au bas de la page 3. Jésus-Christ n'étant plus présent physiquement sur terre pour faire des miracles et chasser des démons, il ne serait plus possible de commettre ce péché contre l'Esprit. Alors, leur idée, c'est simple, c'était dans un moment donné, et vous allez voir qu'il y a une certaine logique... avec un autre argument après, c'était dans un moment donné où Christ était révélé, et ça c'était une œuvre de l'Esprit qui est en train de révéler la personne de Christ à travers des miracles, de la puissance, des manifestations extraordinaires. Ce temps-là est terminé. Et ça, ce serait le péché de celui qui était devant Christ puis qui, voyant l'œuvre de l'Esprit à travers la personne de Christ, disait « Ça, là, ça vient du diable. » Maintenant, Jésus n'est plus ici présent. Il y a juste le témoignage de ses disciples. Ce n'est pas possible de commettre le même péché. Certains théologiens ont estimé que ça, c'était pour un temps seulement dans l'histoire de l'Église. Chrysostome, un des pères de l'Église, qui a vécu au IVe siècle, croyait cela. Jérôme aussi croyait cela. ces deux théologiens-là défendaient cette position. Peut-être que certains ont déjà entendu parler de Arnold Fruchtenbaum. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de lui? Non? Assez populaire, c'est un monsieur qui est venu enseigner à quelques reprises au Québec. Je vais faire juste des termes théologiques des fois, là. Mais sa position eschatologique est dispensationaliste. D'accord? C'est un homile prétrib dispensationaliste. Et donc, ce que lui estime être le péché contre le Saint-Esprit, c'est le rejet national qu'Israël a fait de la personne de Christ. Le fait qu'Israël en bloc, dans la grande majorité, d'accord, nationalement comme peuple, à cette époque-là, ont rejeté Christ, lui dit c'était ça. Jésus est venu au milieu d'eux, c'était ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Ils n'ont pas voulu reconnaître leur Messie et l'œuvre de l'Esprit. Et donc, pour Fruchtenbaum, c'est terminé, tu ne peux plus commettre ce péché-là. C'était un moment dans l'histoire. D'accord? Je vais juste vous donner différentes positions. Donc ça, c'est des théologiens qui vont dire, inquiétez-vous pas, vous ne pouvez plus le faire. C'est terminé, c'était à un moment précis dans l'histoire. D'autres théologiens, la majorité, estiment que c'est un péché qui est toujours possible de faire encore aujourd'hui. Le monsieur, pardon? Ceux qui ne reconnaîtraient pas Jésus-Christ. Mais c'est ça, on va arriver ensemble à voir qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, si le blasphème contre le Saint-Esprit, ce serait de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu puis reconnaître l'œuvre de l'Esprit à travers lui, bien, ça veut dire que ceux qui font ça, peut-être, sont encore en train de le faire. D'accord? Oui, il y avait quelqu'un d'autre qui avait... C'est ça, c'est possible, tout à fait. Mais puis une question que moi, personnellement, je poserais à Fruchtenbaum à ce moment-là, c'est est-ce qu'Israël n'est pas encore en train de faire la même chose dans l'ensemble? Vous comprenez, la majorité d'Israël? Oui, oui, je comprends. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la nation, le comportement n'a pas changé. Le reste d'Israël qui va revenir. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'ils le verraient. Donc, tous ceux qui feraient partie du bloc qui ne revient pas, ben, eux autres ont commis un péché impardonnable pour Fruchtenbaum. Edwin Palmer estime que le passage clé pour comprendre le blasphème contre l'Esprit est Hébreux 6, 4 et 5. Okay, l'approche que je prends, là, et c'est l'approche que je vais prendre à chaque semaine. Avant d'aller juste regarder les passages bibliques, je vous donne une petite idée quelles interprétations ont été données un peu à travers l'histoire de l'Église à ce texte-là ou à cette question-là. Ça vous donne un contexte. Ça vous donne un contexte comment les chrétiens se sont interrogés par rapport au texte et par rapport à la situation précise qu'on est en train d'étudier. Puis ensuite de ça, on va aller directement vers les textes pour voir qu'est-ce qui semble être le plus fidèle aux Écritures. Et on va toujours terminer avec des conseils plus pratiques et pastoraux. Qu'est-ce que ça change dans ma vie maintenant, ça, aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais avec ce qu'on vient de découvrir ensemble? Alors, Edwin Palmer, lui, estime que pour comprendre ce que Jésus est en train de dire dans les Évangiles, il faut absolument se tourner vers Hébreux 6. C'est nécessaire d'aller vers ce texte-là. Je vous lis le passage, je vous l'ai donné dans la page 4, juste les versets 4 et 5. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Alors, pour Palmer, le blasphémateur ne serait pas un chrétien, mais une personne qui a expérimenté une œuvre non salvatrice, il n'était pas vraiment sauvé, mais l'Esprit est en train de l'attirer ou quelque chose comme ça, et qui a ensuite rejeté Christ. Et là, lui voit des exemples dans les Écritures. Il dit, Judas, ce serait un de ceux-là. Judas était dans l'entourage de Jésus. Il a compris plein de choses. Il a vu la puissance. Puis, en définitive, il a décidé de rejeter. Alors, pour lui, Judas aurait commis le blasphème contre l'Esprit Saint. Et selon Palmer, ce serait la même chose avec... ce serait le même péché qu'on trouve dans Hébreux 6. Palmer va mettre Balaam... Saül parmi les mêmes individus qui commettent les mêmes péchés. Saül qui avait eu l'Esprit de Dieu sur lui, hein? pas en lui comme les chrétiens dans le Nouveau Testament, mais sur lui, puis ensuite l'Esprit qui se retire. Alors Palmer va identifier ça. Un autre théologien arminien, calvinisme, arminianisme, juste une phrase sur ça. La position calviniste croit que l'élection est sur la base d'une décision simple de Dieu. Dieu a élu des individus par un choix net, pas parce qu'il a regardé dans le futur puis il a dit Karine, elle va m'accepter, c'est une de mes élus. D'accord? Ça, c'est la position arminienne. La position calviniste a dit non, tous sont condamnés et Dieu, regardant dans le futur, il n'a pas trouvé quelque chose de plus beau en Karine qu'en l'autre personne. C'est deux pécheurs égaux. Et donc, sur cette base-là, moi, je vais choisir qui je vais sauver. Un point, c'est tout. Ça, c'est la position calviniste. D'accord? Qui est ma position. Le théologien arminien Kenneth Gritter n'est pas convaincu que l'on doive amener le passage d'un Jean 5, 16, celui qui parle d'un péché qui conduit à la mort. Lui a tendance à dire que probablement qu'un Jean 5, 16 qu'on a lu tout à l'heure parle de la peine capitale. Un péché qui conduit à la mort, c'est un péché que l'État, le gouvernement, vont décider que tu dois mourir. C'est un péché qui conduit à la mort, peine capitale. Maintenant, sur ce qui est sur l'ensemble de la question du péché contre le Saint-Esprit, ben, Gritter, étant donné qu'il est arminien, il estime qu'un péché impardonnable n'existe pas vraiment, puisque la décision de venir à Christ relève au final de l'individu. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est l'individu qui choisit Dieu dans un sens. C'est ça, ça revient à ça, la position arminienne. D'accord? Et donc, parce que Dieu, regardant dans le futur, sait que l'individu va choisir. Donc, la responsabilité est entre les mains de l'individu. Alors, un péché qui ferait que l'individu ne peut plus choisir, ça ne se peut pas vraiment. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, hein? Oui? Il y en a qui disent oui, puis qui me mentent. Puis en... si je crois que Dieu... Si je ne crois pas que Dieu choisit avec une élection pure, d'accord? Mais je crois que c'est vraiment l'individu qui a la capacité de choisir Dieu ou non, bien, en définitive, je vais toujours pouvoir choisir Dieu. Je vais toujours avoir la possibilité de revenir. La décision est entre mes mains, au final, uniquement. Tandis que celui qui est calviniste, il dit, l'individu dans un mystère qu'on n'arrive pas à comprendre, a une responsabilité dans son choix, mais c'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui va choisir les individus. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, bien, ça se peut que Dieu n'ait pas choisi. Et cette personne-là va persévérer dans un péché qui va faire qu'elle ne sera jamais sauvée. Beaucoup d'appelés plus d'élus. Ben, c'est sûr que moi, j'ai un préjugé très favorable pour le calvinisme. Fait que je serais mal placé même pour faire une super défense nécessairement de l'autre côté. Mais c'est ça. Je voulais quand même juste vous présenter quelques positions d'autres théologiens. Alors là, on va regarder ensemble les Écritures davantage. Puis on va essentiellement rester dans le passage de Matthieu. D'accord? Ma compréhension à moi, c'est que si on veut comprendre le blasphème contre le Saint-Esprit, on doit rester dans les trois évangiles. Ma compréhension, c'est qu'il y a des éléments dans les trois évangiles qui rapportent finalement la même chose. Là. Dans ce moment-là où Jésus enseigne, il y a des éléments qui sont uniques là. Et je n'irai pas chercher Hébreu, puis je n'irai pas chercher un Jean pour pouvoir expliquer le passage ici. D'accord? Ça, c'est ma compréhension. Dans l'évangile de Matthieu, je suis à la page 4, au bas de la page 4, les Saintes Écritures. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus met en garde les pharisiens contre ce péché. Jésus vient de chasser un démon, mais les pharisiens attribuent cet exorcisme à Belzébul, prince des démons. Et Jésus leur répond en disant, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Une interprétation courante de ce passage et des trois passages finalement synoptiques, là, Matthieu, Marc et Luc, est qu'il s'agit d'un manque de foi. En gros, ça se résumerait à ça. Les pharisiens, devant ça, refusent de croire que ça vient de Dieu. D'accord? La base, là, je vais juste déposer une base. Ce que les pharisiens font, c'est que devant une manifestation aussi évidente, ils refusent de croire que que ceci vient de Dieu. Ils refusent de croire en Christ. Et donc, le point de départ, ce serait un manque de foi. Les pharisiens exprimeraient leur incrédulité. Augustin, Mélenchon défendaient cette interprétation-là. Une autre interprétation, ce serait d'identifier plus spécifiquement le péché comme étant le fait d'attribuer malicieusement les miracles de Jésus à Satan. Alors, est-ce que les pharisiens sont là, puis ils regardent Jésus faire ça, puis ils disent « ça ne vient pas de Dieu ». Je n'arrive pas à croire que ça vient de Dieu, ce qu'il est en train de faire là. Moi, je regarde ça, puis ça a l'air d'une œuvre qui vient du diable. Ou est-ce que les pharisiens sont là, puis ils sont en train de regarder Jésus faire ça, et ils sont tellement méchants dans leur cœur, tellement opposés dans une lutte personnelle avec Jésus, que même si dans leur conscience, ils ont envie de dire « ça vient de Dieu », ils sont en guerre avec Dieu, ils vont dire « non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable ». Est-ce qu'il y a une intention malicieuse derrière l'incrédulité qui est exprimée, ou est-ce qu'il y a juste de l'incrédulité? D'accord? Et je pense que pour moi, c'est un élément important pour comprendre où est-ce qu'on s'en va avec le texte. La nuance étant ici qu'il ne s'agirait pas d'une incroyance ou d'un manque de foi uniquement, autant qu'une attaque malicieuse contre l'œuvre de l'Esprit. Alors, ces gens-là perçoivent qu'il y a quelque chose de divin, mais ils s'entêtent dans leur folie à s'opposer à Jésus-Christ. Une telle personne qui décrit ainsi Jésus-Christ serait prise dans un abysse qui rend le pardon tout simplement impossible. Elle n'est pas capable d'écouter, pas capable de recevoir l'œuvre de l'Esprit parce qu'elle est en lutte ouverte avec Dieu. Soit parce que Dieu ne lui pardonnera pas ce péché, ou parce qu'une telle personne ne choisira jamais de se repentir. Maintenant, un élément qui ressort très, très clairement dans le texte, c'est que pour comprendre ce péché-là, il faut voir qu'il y a un lien entre Christ et l'Esprit, entre la Christologie et l'Esprit. D'accord? Ce péché-là est lié à l'œuvre que l'Esprit fait en faveur de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? L'Esprit vient pour appuyer l'œuvre de Christ, pour manifester quelque chose. Puis là, Jésus nous surprend, puis il dit, « C'est correct que tu t'attaques à moi, je peux vivre avec ça. Mais que tu dises que l'œuvre que l'Esprit est en train de faire en moi, ça c'est diabolique, ça ne la passera pas, mon ami. » D'accord? Et donc, il y a une relation entre les deux, là. Il y a une relation entre la Christologie et le Saint-Esprit. Selon moi, pour comprendre c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire là, ou vos yeux me trompent tous? Est-ce que ça, c'est clair, ce que j'apporte là? Oui. 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 Puis, pourquoi est-ce que la question est importante? Je vais essayer de répondre à ce que tu me demandes en m'étirant un petit peu, là. Pourquoi est-ce que la question est importante? C'est parce que lorsque Jean dit qu'il y a un péché qui commet la mort, est-ce que je peux aller prendre ce passage-là pour essayer de comprendre ce dont il est question ici? Selon moi, non. Parce qu'ici, il n'est pas question de Christologie. Peut-être, mais il ne dit pas, Jean, il ne nous dit rien là-dessus. Certains vont dire, par exemple, que ce que Ananias et Saphira ont fait lorsqu'ils ont menti à l'Esprit, d'accord? Puis ils ont été frappés, ils arrivent là devant les apôtres, puis ils meurent. Ça serait le même péché. J'ai pas tendance à le croire parce qu'il n'y a rien à voir avec la Christologie ici. C'est tout simplement de l'insoumission envers Dieu de la part d'Ananias et Saphira. Ici, ce blasphème-là, hein, un blasphème, c'est des propos qui offensent Dieu. Ce blasphème-là est d'attribuer ce que Christ est en train de faire, puis ce que l'Esprit est en train de faire à travers lui, au diable. Il dit, ce qui pousse Christ, c'est ce que les autres disent, c'est le diable qui est derrière toi, mon ami. D'accord? Donc, il y a une relation étroite entre l'œuvre de l'Esprit et la Christologie. La personne de Christ là, est au centre de toute cette question-là. Même si Jésus dit, c'est pas un blasphème contre moi qui est fatal, c'est un blasphème contre l'Esprit. OK, mais c'est quand même lié à toi, là. C'est de ne pas reconnaître l'œuvre que l'Esprit est en train de faire en toi. Est-ce que ça clarifie un petit peu? Oui.
Ben,
pas Jésus nécessairement. On va le voir, ça. C'est ça qu'on va voir. Okay. C'est ce que Palmer, il dit, t'entends une personne dire ça une fois, c'est fini. Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? C'est la prochaine question qu'on va se poser. Est-ce que dès que quelqu'un fait une attaque comme ça, c'est final? Oui, Jean-Sébastien. Est-ce qu'il y a un lien avec l'Antichrist? Dans ma compréhension du passage, là, tu me devances un petit peu au niveau de la compréhension du texte. Là. Dans ma compréhension du passage, je n'avais pas pensé comme ça, mais je pourrais croire, oui, l'Antéchrist, mais surtout les Antéchrists, hein, parce que les Écritures nous disent qu'il y aura plusieurs, et il y en a déjà. Possiblement qu'eux autres sont coupables du blasphème contre le Saint-Esprit, puisqu'il y a une attaque persistante contre Christ pour attaquer Christ. Et peut-être que ça, ce serait le cas. Peut-être que là, je ferai une association. C'est-tu clair ce que je viens de dire? On continue à avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait juste une question? Juste pour que je puisse vous mêler un peu plus. Là. Oui? Okay, c'est une excellente question. Je vais la répéter là, pour l'enregistrement. Je réalise que je n'ai pas répété cette question. Admettons qu'il y a quelqu'un qui est malade, puis l'Église prie pour cette personne-là. La personne est restaurée et que quelqu'un d'autre intervient, un non-chrétien arrive, un médium, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître une œuvre de Dieu dans ça, puis qui va dire non, ça ne vient pas de Dieu. Au contraire, même à la limite, si je pousse ton illustration un peu plus loin, au contraire, c'est des démons qui font ce genre de choses. C'est des esprits qu'on a priés qui ont fait ça, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a fait ça. Est-ce que ça pourrait être le blasphème contre le Saint-Esprit? Je garde la question en suspens, puis je vais essayer de répondre un tout petit peu plus loin. C'est une bonne question. Donc, si je prends cette question-là, puis je la simplifie un petit peu, est-ce que chaque fois qu'on va attaquer le nom de Jésus-Christ ou l'œuvre de Jésus-Christ, en déclarant que cette œuvre-là ne vient pas de Dieu, admettons, mais qu'elle vient du diable, parce qu'à chaque fois, on est en train de faire un péché impardonnable, c'est fini. Dans un sens, je peux le résumer comme ça un petit peu. Oui, Armand. Ah, je pense qu'il est déjà pas mal troublé, là. Tu peux lancer une pierre dans ma flotte. Ouais, OK, je vais répéter ce que tu as dit, mais je vais faire tout de suite une nuance de peur que ce soit mal compris. Herman nous dit que les pentecôtistes, si tu permets, je vais déjà le nuancer, certains pentecôtistes peuvent aller jusqu'à dire que lorsque des non-charismatiques refusent de reconnaître que le parler en langue est une œuvre de l'Esprit, ils sont eux-mêmes en train de commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Bien, je vous dirais, pour moi, c'est le genre de citation, comme je vous ai lu tantôt avec M. Palmer, qui sont assez... On ramasse toute l'affaire dans le même paquet, puis on vient de régler une grosse question. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec nous? On est fait. Mais je veux vraiment faire attention, ce ne sont pas les pentecôtistes qui disent ça. Certains peuvent peut-être penser ça. Oui, je vais aller vers mon texte. Est-ce que vous avez une question qui nous aide à... Oui. OK, mais ça revient. Alors, la question de Sylvain, c'est est-ce que c'est possible qu'un individu sache dans son cœur que c'est une œuvre de Dieu, mais dans sa méchanceté, refuse de le déclarer, continue à dire? Ça revient à la question que je disais tantôt. Est-ce que les pharisiens déclarent ça par incrédulité ou en étant malicieux? D'accord? Ils voient que ça vient de Dieu, mais ils sont en guerre avec Dieu. pratiquement diabolique. Le diable sait que les œuvres de Dieu viennent de Dieu, on s'entend? Le diable n'est pas un être particulièrement incrédule. C'est un être particulièrement méchant. D'accord? Les démons savent que Dieu existe et ils tremblent, mais ils sont insoumis. Ce sont des êtres méchants. Est-ce que c'est de ça dont on est en train de parler comme attitude dans notre texte ici? On revient au texte ensemble. OK. Au haut de la page 5, le troisième paragraphe, je vais juste relire quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, là, pour vous ramener dans la suite la compréhension du texte. Un élément qui ressort clairement est que la relation entre la christologie et la pneumatologie, d'accord, Christ et l'Esprit Saint, est au centre de ce péché. Or, dans d'autres passages comme celui d'1 Jean 5 ou le péché d'Ananias et de Saphira, rien ne nous permet de voir ces deux doctrines-là, la christologie et la pneumatologie, au centre du péché. Il ne semble pas y avoir de lien, ce n'est pas exprimé qu'il y a un lien entre une révélation de Jésus-Christ et l'œuvre que l'Esprit fait dans la révélation de Jésus-Christ. D'accord? Moi, personnellement, ça m'amène à dire, si je veux comprendre le blasphème sur le Saint-Esprit, je vais rester dans ce texte-là, en gros. Les autres, c'est d'autres mises en garde importantes qui ne sont pas nécessairement reliées avec celui-ci. Alors, dans Matthieu 12, il est fort possible que Jésus fût en train de mettre en garde les pharisiens contre un péché dans lequel ils étaient en train de s'engager. Ça, c'est ma compréhension du texte, d'accord? Il est vrai qu'ils avaient attribué au diable les œuvres que Jésus venait d'accomplir, mais cette attribution était dangereuse sans être nécessairement fatale. Je m'explique. Je crois que Jésus est en train de dire, les boys, si vous continuez comme ça, il n'y aura plus rien à faire pour votre âme. Je pense que c'est ça que Jésus est en train de dire. Et un des éléments qui m'amène à dire ça, c'est qu'il est en train de discuter avec eux. D'accord? Il est en train de les mettre en garde. Donc, il y a encore une invitation à se repentir. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus était souvent dans ses déclarations très, très sec et très, très direct, mais il est encore en train de s'adresser à la personne. Je vais éclairer ce passage-là par un autre. Tournez avec moi dans Matthieu 10, et je vais faire allusion à ça tout à l'heure dans la prédication. Selon moi, ce que Jésus est en train de faire ici dans Matthieu 12, avec le blasphème contre le Saint-Esprit, ça ressemble un petit peu à ce qu'il a fait dans son approche, à ce qu'il fait dans Matthieu 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'au moment où un être humain renie Christ devant les hommes, automatiquement, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est « t'es fall ball, mon homme. Je vais te renier devant mon Père. » Dans le passage qu'on va regarder ce matin, Jésus dit à Pierre, « Tu vas me renier trois fois. » Tu vas me renier trois fois, puis après ça, je vais te relever. Mais ici, dans Matthieu 10, il nous dit, « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. » Il me semble que c'est clair. Pierre va le faire trois fois. Il est fait, non? C'est pas ça? Oui, Paul. Ah, c'est ça. Pourtant, alors Paul il dit probablement que c'est si tu continues à le renier jusqu'à la fin. Si ta vie, en fin de compte, est caractérisée par un reniement de Christ, mais quand on va arriver de l'autre côté, mon ami, attends-toi pas à ce que je me tienne debout pour toi. C'est notre compréhension du passage. Autrement, qu'est-ce que Jésus est en train de faire lorsqu'il dit à Pierre, tu vas me renier trois fois, puis je vais te relever après. Hop, il semble que Jésus n'est pas en train de dire ici, je check, ce n'est pas trois strikes. Une fois, c'est fini. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire si c'est votre attitude de vie, si c'est ça qui vous caractérise. Personnellement, je pense que c'est ça qu'il est en train de faire ici avec les pharisiens. Je crois qu'il est en train de dire, faites attention les gars. Moi, je vais même accepter que vous me crachiez dessus. Mais continuez à attribuer au diable ce que l'Esprit Saint est en train de révéler à travers moi, puis vous en tirerez pas. Et je crois personnellement que c'est ça que Jésus est en train de faire dans Matthieu 12. Je vais juste vous lire deux paragraphes. Je vais relire une partie que j'ai déjà lue, mais revenons au passage clé de Matthieu 12. Il est fort possible que Jésus fût en train de mettre en garde les pharisiens contre un péché dans lequel ils étaient en train de s'engager. Il est vrai qu'ils avaient attribué au diable les œuvres que Jésus venait d'accomplir, mais cette attribution était dangereuse sans être nécessairement fatale. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne crois pas que dès que quelqu'un va dire une fois que Jésus, c'est un faux docteur qui était là pour faire de l'argent puis qui a parti une secte, puis c'est diabolique cette affaire-là, ça ne venait pas de Dieu. Dès que je déclare ça, chou, c'est fini. Ce n'est pas ce que je crois personnellement. Je pense qu'il est en train de mettre en garde et de dire, faites attention, si vous persévérez dans cette voie-là, là, il n'y aura plus rien à faire pour vous. Parce que moi, je ne me tiendrai pas debout pour vous devant mon Père. Et je peux associer même les deux, là, d'accord? Tout comme dans le cas du reniement dont Jésus parle en Matthieu 10, il semble que Jésus ne soit pas en train de parler d'un acte isolé. Il parlerait d'une persistance à rejeter volontairement Jésus et l'œuvre de révélation de l'Esprit en Jésus-Christ et de surcroît de l'attribuer au diable. Je pense qu'il y a un élément de ce côté-là malicieux. OK? L'agressivité qu'il y avait, l'entêtement à ne pas vouloir reconnaître ce qui est en train de se passer devant leurs propres yeux. Jésus a fait plus que tous les autres prophètes avant. Et il continue à s'acharner contre lui. Je pense qu'il y a un élément là au niveau de la malice. Le fait même que Jésus soit en train de mettre en garde les pharisiens et la foule qui les écoute débattre suggère qu'ils ont toujours la possibilité de se repentir. Je ne vois pas dans ce texte-là, les gars, il n'y a plus rien à faire avec vous, c'est fini. Parce que Jésus est encore en train de les exhorter. Et je vois une mise en garde dans ça. En somme, le blasphème contre l'Esprit et cette attitude prétentieuse de refus à l'égard de Jésus-Christ, malgré l'œuvre de l'Esprit pour le révéler. Il s'agit donc d'une détermination à s'opposer à Dieu, et sans repentance, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est ma compréhension de ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de s'en prendre directement à Jésus-Christ, reconnaissant pas que Dieu était en Christ, que l'Esprit de Dieu était en Christ. Et de rejeter ça et de persévérer dans cette voie-là. Oui? 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 Et c'est quoi l'attitude de Dieu avec le Pharaon? Il endurcit son cœur. Oui? Oui? Donc, à quoi ça sert ces mises en garde-là? Si j'ai raison dans ma compréhension, si c'est bien ça que Jésus est en train de dire ici, à quoi servent de telles mises en garde? Peut-être que vous avez déjà entendu le conseil suivant. D'accord? Si une personne craint dans son cœur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est qu'il ne l'a pas fait. Je pense que ce serait un bon conseil pastoral. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, Yannick, je crains d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit et donc d'avoir commis quelque chose d'impardonnable, bien, si je comprends bien le passage de Matthieu, cette crainte-là est déjà une œuvre de l'Esprit dans ton cœur. Donc probablement que tu ne l'as pas fait. Tu as cette révérence envers Dieu. Tu crains d'avoir porté atteinte au nom de Jésus-Christ. Et ça se peut que tu l'aies fait. Ça ne veut pas dire que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est déjà une œuvre de l'Esprit dans ton cœur d'avoir cette crainte-là. Est-ce que ça, vous me suivez? Oui? Le raisonnement derrière ce conseil est qu'une telle personne ne manifeste pas cette opposition persistante à l'œuvre de révélation de la personne de Jésus-Christ. Possiblement que des passages de mise en garde comme celui-ci servent comme des instruments de mise en garde et de jugement contre ceux qui persistent à vouloir appeler le bien mal et persistent à rejeter le royaume de Christ dans leur vie. À quoi serviraient des passages comme ceux-là? Je pense que c'est des outils que Dieu nous donne dans notre évangélisation. Moi, je pense qu'il y a un temps dans l'évangélisation où je dois aller vers quelqu'un puis lui dire, est-ce que tu réalises que ça fait 20 ans que tu vois Christ transformer ma vie? Que tu vois ta vie misérable? Tu es en train de t'enfoncer année après année. Tu sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en Jésus-Christ et tu continues à le rejeter. Est-ce que tu réalises ça? Quand tu vas arriver de l'autre côté, il n'y aura aucune excuse à donner. Parce que tu refuses Christ comme étant l'élu de Dieu. Et je pense que Dieu nous donne ces outils-là comme des outils d'évangélisation. Je pense que Jésus est en train de faire de l'évangélisation ici. C'est ça qu'il est en train de faire, selon moi, avec les pharisiens. Et donc, il y a un temps dans notre évangélisation avec des gens. Je ne vous parle pas de la personne là, que je rencontre dans le métro, là. Comprenez? À moins qu'on ait vraiment une discussion très directe, puis très, très vite, on s'en va vers des attaques agressives contre Christ. Je ne vous parle pas de celle-là, je vous parle de la personne à qui je parle. Et il continue à avoir un mépris mesquin à l'égard de la personne de Christ. Année après année, après année, après année. Et il y a des évidences dans sa vie et dans ma vie qu'elle devrait être un peu plus sensée puis commencer à s'approcher de Christ. Et je pense qu'il y a un temps pour sortir des textes comme celui-là. Et confronter la personne, puis dire, est-ce que tu réalises la persistance avec laquelle tu rejettes Christ, alors que toutes les évidences dans ta vie et dans la mienne te disent que tu devrais changer de vie et courir à Christ? Donc, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous donne des passages comme ça. Vous comprenez, il y a un temps dans l'évangélisation pour durcir le temps, durcir le ton. Et la raison pour ça est toute simple, c'est que, je veux dire, quand ils vont mourir, s'ils n'ont pas saisi la main de Christ, c'est fini. Hein? Il n'y en a plus de retour. Donc, c'est pas de la méchanceté à un certain moment donné de durcir le ton. C'est de la méchanceté si je ne crois pas à l'enfer. Mais si je crois à l'enfer, ça peut vraiment être un acte de bonté. Donc, je pense que la première raison pour laquelle ces passages-là nous sont donnés, c'est pour nous donner des mises en garde. Je crois aussi que ces passages-là sont donnés comme des mises en garde envers les chrétiens, parce que ça induit une crainte dans nos cœurs et ça nous rapproche de Christ. D'accord? Je pense que c'est le cas avec 1 Jean 5, c'est le cas dans Hébreux. Ça nous amène à dire, « Ouf, non, je ne voudrais pas me rendre là. » Et là, on revient à Christ. D'accord? C'est un petit peu la même fonction que 1 Jean. Si vous voulez comprendre de quoi je parle là, cet après-midi, pour la fête des mères, allez troubler vos cœurs, lisez 1 Jean. D'accord? Lisez 1 Jean, puis quand vous allez terminer 1 Jean, vous allez dire, est-ce que je suis chrétien, moi? Oh. Et ce que ça produit chez le chrétien, ça produit, on court à la croix, on dit, Seigneur, fais le ménage, je veux m'attacher à toi. C'est ça que ça produit, 1 Jean. Chez l'inconverti, qu'est-ce que ça fait? Rien à faire. Ça n'a pas de bon sens. Et ça, souvent, les gens vont être endurcis. Et donc, je pense que ces passages-là sont là aussi pour nous amener une sainte crainte à l'égard de Dieu. Blasphémer contre l'Esprit n'a rien à voir avec des doutes. Juste quelques observations en terminant. Ça, c'est important, d'accord? Blasphémer contre l'Esprit n'a rien à voir avec des doutes momentanés ou de la colère contre Dieu ou une chute momentanée dans la foi. C'est simple et ça, c'est très clair dans les Écritures. Par exemple, Jean-Baptiste a eu des doutes importants à l'égard de Christ. Vous vous rappelez? Jean envoie ses disciples pour dire, « Là, c'est parce que moi, j'étais sûr que c'était toi, mais là, je commence à avoir des doutes. Qu'est-ce qui se passe? » Puis dans le même passage, là, je vous donne des références ici, vous pourrez prendre le temps d'aller les voir. Dans Matthieu 11, Jésus va dire, hey, « Vous n'avez jamais vu un gars comme Jean-Baptiste. » Il vient juste d'exprimer des doutes à l'égard de Jésus. Fait que Jésus rassure les disciples de Jean, il les renvoie auprès de Jean, puis il dit, « Ça, c'était tout un homme de Dieu. » Il vient juste de douter de toi. D'accord? Donc, blasphémer contre l'Esprit, ce n'est pas avoir des doutes. Avoir des doutes, c'est être pécheur, c'est être comme vous et moi, comme tout le monde. Ce n'est pas non plus vivre un moment où il y a de la colère face à des choses que Dieu permet dans nos vies. Autrement, les psalmistes auraient commis le blasphème contre l'Esprit à plusieurs reprises. Les psaumes sont remplis de ces lamentations. Pensez simplement au livre de Job. Je veux dire, Job, ce n'est pas toujours délicat la manière qu'il s'adresse à Dieu. D'accord? Mais il est dans son épreuve, il est là, puis il dit, « Seigneur, viens-t'en que je puisse plaider ma cause. » Je ne sais pas, là. C'est comme... Mais il est dans sa douleur et ce n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est clair, puisque la conclusion du livre de Job, c'est que Job était tout un homme de Dieu. T'écoutes comment est-ce que Dieu parle de Job, de son serviteur à la fin devant ses amis. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'impardonnable ce que Job a fait là. Le blasphème contre l'Esprit n'est pas le simple fait de douter. Jean-Baptiste l'a fait. Thomas a eu des doutes. Jésus l'a relevé. Le blasphème contre l'esprit n'est pas non plus le fait d'éprouver de la colère. Ça, je l'ai mentionné, les psaumes sont remplis de ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette colère-là, avec ces doutes? On doit les confesser, on doit les amener devant Dieu. En conclusion, nous pouvons dire que le blasphème contre l'esprit est le fait de celui qui rejette avec persistance l'œuvre de Christ. Mais le fait de voir un non-chrétien attaquer Christ sans cesse ne devrait pas nous conduire à démissionner de prier pour lui et de lui annoncer l'Évangile. Au contraire, tout comme Jésus, nous devons le mettre en garde afin qu'il saisisse la voie sur laquelle il est engagé et quelle est la fin de cette course. Alors, le plus hargneux des antichrétiens que vous connaissez, je ne pense pas que le passage ici nous amènerait à dire, dans Matthieu, nous amènerait à dire, ben, il n'y a plus rien à faire avec lui, il est fini. Non, je pense que je devrais ouvrir Matthieu 12, puis je devrais aller vers cette personne-là, puis dire, hey, je faisais mon culte ce matin, puis en lisant la Bible, sais-tu quoi, j'ai pensé à toi. Puis je voudrais t'amener dans un texte, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui agit exactement comme toi, puis qui te ressemble. Puis Jésus parle de toi, puis il donne une mise en garde énorme et sévère. Comprenez? Parce que je crois que Jésus est en train de servir une mise en garde aux pharisiens. Il est en train de leur dire, repentez-vous les boys, parce que si vous continuez sur cette voie-là, il n'y aura plus rien à faire pour vous. Et je pense que c'est ça le blasphème contre l'Esprit Saint, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Des doutes? Est-ce que vous parlez des gens qui se réunissent dans des salles du royaume? Ça, vous êtes en train de parler? Je ne pense pas que je pourrais associer ça avec ce passage-là. Je ne crois pas qu'ils ont salut. Mais je ne me servirais pas de ce passage-là parce que, de bien des manières, ces gens-là essaient d'honorer Christ. De d'autres manières, il diminue Christ, ça c'est clair aussi. Alors, j'aurais pas tendance à me servir de ce passage-là, parce qu'ils ne sont pas en train de dire que ce que Jésus-Christ a fait. Comme je vous dis, ce que je comprends dans Matthieu 12, c'est qu'il y a une relation étroite entre la christologie et l'œuvre de l'Esprit. Et ces gens-là ne sont pas en train de dire que ce que Jésus a fait était diabolique. Dans ma compréhension, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est d'attribuer à Jésus une œuvre diabolique. À la limite, j'aurais plus tendance à associer ça avec des antéchrists qui littéralement s'attaquent effrontément à la personne de Christ avec mépris. Oui, Alain. Oui, je dis, je vais juste répéter ta question. La question d'Alain, c'est est-ce que finalement, tout simplement, ne pas croire en Jésus-Christ, c'est pas pécher contre l'Esprit, puisqu'on rejette le fait que Christ est sauveur, tout simplement, puis on ne reconnaît pas qu'il vient de Dieu? Bien, ma réponse, ça serait un péché contre le Saint-Esprit. Je pense qu'il y a un contexte particulier ici où tu as des leaders qui attribuent au diable une œuvre de l'Esprit. Je pense qu'il y a l'aspect malicieux qui est là, que Jésus relève. Donc, l'incrédule va être condamné pour l'éternité, puis celui qui attaque vicieusement le nom de Dieu, qui attaque vicieusement la personne de Christ, va être condamné pour l'éternité. Je pense aussi que les Écritures nous enseignent qu'il y en a qui vont être jugés plus sévèrement lorsqu'il fait des comparaisons entre les villes. Et bien que je ne voudrais pas être dans aucun des deux souliers, si j'avais à choisir entre les deux, j'en choisirais un plutôt que l'autre. Et je pense que ça, c'est biblique aussi. Jésus répète à plusieurs reprises qu'il y a des incrédules qui vont être jugés plus sévèrement que d'autres incrédules. Et je crois qu'il y a quelque chose de particulier ici avec cette attaque malicieuse qui tient à dire que c'est une œuvre diabolique. C'est une œuvre qui vient du diable. C'est pas une œuvre qui vient de Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier là. C'est bon, on va terminer dans un mot de prière. Est-ce que tu avais une question, Louise? Ou ça va? OK. On va terminer ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce de ce que tu m'as révélé ta personne. Et ton esprit a travaillé en moi parce que même Seigneur, si je n'attaquais pas constamment ton nom, je n'étais pas de ce camp des gens qui malicieusement cherchent à détruire le nom de Jésus-Christ. Mais malgré cela, Seigneur, j'étais de ceux qui étaient indifférents. J'étais de ceux qui dans le fond, te méprisaient quand même parce que je ne voulais pas t'écouter, Seigneur. Et je ne voulais pas voir la gloire et la beauté de ton nom et te laisser régner sur ma vie. Et si aujourd'hui, Seigneur, je suis dans cette assemblée, en train de louer, de chanter tes louanges, c'est à cause de l'œuvre de ton esprit dans mon cœur. Ton esprit qui m'a attiré, qui m'a confondu dans ma folie, qui m'a révélé la personne de Jésus-Christ, qui est venu éclairer ces textes bibliques pour venir illuminer les yeux de mon cœur. Et que la beauté, la grâce de l'Évangile prenne sens en moi, Seigneur, comme elle n'a pas pris sens encore dans la vie de tellement de gens que j'aime et pour qui je prie, et qui ne comprennent pas ce que tu as à faire là, Seigneur. Je te bénis, Seigneur Jésus, de ce qu'on n'est pas seul, de ce que tu nous as donné, ce consolateur fantastique, qui vient exercer cette œuvre dans mon âme, Seigneur. Je te prie de nous accompagner dans les prochaines semaines. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre estime, dans notre compréhension, dans notre affection pour ce consolateur que tu as placé en nous et qui nous accompagne lorsqu'on ne sait même plus quoi dire, Seigneur, devant toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.